peut dire les toldot, les engendrements, les événements de la vie de Noach. Souvent, les toldot, ça a la même racine que Yeled, par exemple, comme un enfant. Donc on voit ici les enfantements de Noach. Et dans ce premier verset, dans ces deux premiers versets, on nous dit un peu les deux choses. On dit, voilà les toldot de Noach. Et quelles sont ces toldot? Noach était un homme sadique, injuste, tamim, il était entier, parfait, dans sa génération, dans ses générations. C'est-à-dire par rapport à la génération dans laquelle il a vécu, il était un tzaddik. Alors on va, évidemment, ça va être interprété de deux manières différentes. Et à Elohim, italech Noach. Noach a marché avec Elohim. Donc ici on parle, on a dit toldot, et de quoi on parle? On parle des événements de la vie, ou de la façon d'être dans sa vie de Noach. On ne parle pas de ses enfants. Mais le verset d'après dit, Vayoled Noach, Noach a mis au monde. Alors, Vayoled, et bien sûr, on peut dire, c'est lui qui les a mis au monde. On sait qu'en général, c'est les femmes qui mettent au monde. Mais Vayoled, ça veut dire il a enfanté, si on peut parler comme ça. Là, on fait comme si c'était lui, la femme, si vous voulez. Souvent, par la suite, on verra très bien qu'on parlera des femmes, on dit, la femme par rapport à son mari, telle est de l'eau. Elle a eu un enfant pour lui, pour son mari. C'est les hommes qui ont la mitzvah de Peria Verivia, d'avoir des enfants. Donc la femme, elle a un enfant pour son mari. Mais ici, on ne parle pas de Madame Noach. Alors, il a eu trois fils, Shem, Ham et Yafet. Là, on parle de ses enfants, vraiment. Donc, si vous voulez, sur les deux premiers versets, on a parlé à la fois de Noach dans ses tribulations, si on peut parler comme ça, sa façon d'être dans le monde, et les enfants qu'il a eus. Alors, les enfants qu'il a eus, c'est important, parce que ses enfants sont encore relativement à la maturité à ce moment-là, les enfants sont encore mineurs. Et ces enfants de Noach vont être sauvés, puisqu'ils ne vont pas mourir dans le déluge, parce qu'ils sont les enfants de Noach, en tant qu'enfants. S'ils avaient été plus âgés, ils ne méritaient probablement pas d'être sauvés, donc ils n'auraient pas été. Ils le sont parce qu'ils sont ses enfants, au titre de ses enfants. Ensuite, on nous dit, toujours dans la fin du premier verset, Et ha Elohim italech Noach. Littéralement, le Et veut dire avec. Avec Elohim italech Noach, Noach et allé. Donc il a marché avec lui. Alors la question de savoir, qu'est-ce que ça veut dire ici, qu'il marchait, qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Hachem? Donc, marcher avec Elohim, ça veut dire quoi exactement? Alors, d'Avraham Avinu, il sera dit par la suite qu'Avraham Avinu, il marchait l'ifnei Elohim. Il marchait devant Elohim. Et donc on fait la comparaison entre Abraham qui marche devant Elohim et Noach qui marche avec Elohim. Comme si on voulait dire, Noach il se conduit bien à condition qu'on lui donne la main, quoi. Elohim lui donne la main, il sait marcher. Mais Abraham, là, c'est un inventeur de comment on marche tout seul devant Elohim. Alors, ça veut dire que Abraham, il va marcher, il va inventer un chemin. Bon, c'est ça, parce qu'il marche, il est le premier. Il invente un chemin. Et alors, bien sûr, on peut dire c'est l'ifnei Elohim, c'est-à-dire qu'en réalité, il est toujours dans son chemin devant Elohim. C'est-à-dire, comme s'il tenait, il se tenait en permanence devant Elohim. Donc, Elohim, en quelque sorte, conforte et il accepte la façon, l'invention du chemin par Abraham. On n'a pas l'invention d'un chemin par Noach. Noach n'a pas inventé le chemin. Non, puisqu'il n'est pas l'ifné à Elohim. Lui, il est seulement et à Elohim. Avec.
Mais il fallait peut-être ce travail préalable de
Noach
pour Abraham.
Peut-être, peut-être avez-vous raison. La question, c'est vrai, la question c'était, est-ce que l'homme est fait, Adam, le projet divin c'est que l'homme marche devant Elohim, et d'une certaine manière, Noach n'en était pas capable, peut-être il n'en était pas capable parce que la génération dans laquelle il vivait était une génération qui, si vous voulez, qui polluait complètement le monde, et on ne pouvait pas inventer un chemin, c'est possible que c'était ininventable. On fait toujours la comparaison en disant que si Noach avait été dans la génération d'Abraham, il aurait été quantité négligeable par rapport à Abraham. Ceux qui disent que Noach, il était bien dans sa génération, relativement à la génération pourrie dans laquelle il a vécu, aux générations pourries qui sont les générations juste avant le déluge et les générations du déluge, donc c'était vraiment les plus pourries puisque c'est à la fin de ce processus de pourrissement a eu lieu le déluge. Donc lui, il a vécu à cette période-là. Alors on dit toujours, par rapport à cette période-là, il était un tzaddik. Mais qui... Alors certains veulent dire, il aurait été dans la génération où il y avait Abraham, il aurait été porté aussi par le modèle Abraham, il aurait peut-être fait mieux encore. Mais d'autres disent non, Dorshin Levnaï. Non, si. C'est seulement, il est tzaddik seulement relativement à cette génération-là. Mais par rapport à la génération d'Abraham, il... génération dans laquelle il y avait Abraham, parce que quand on dit la génération d'Abraham, c'était tous pourris aussi à part Abraham. D'accord? C'était pas qu'il y avait. Il n'y avait pas de... C'est quoi? C'est qui? Nimrod? C'est la tour de Babel, la génération d'Abraham. Donc c'est les gens aussi pourris, si ce n'est pire que les gens du déluge. Donc, quand on dit la génération d'Abraham, la génération dans laquelle il y avait Abraham. Donc par rapport, si tout à coup le modèle c'est Abraham, alors c'est sûr que Noach il n'aurait pas fait le poids. D'après ceux qui disent que Dorshin le Gnaï. Alors je dis, c'est difficile de dire comment, enfin, de juger. Ce qui est Dorshin, c'est parce qu'effectivement on ne sait pas comment il faut dire. On va savoir comment c'est quand tu es dans une génération archi pourrie. Parce qu'on va voir une chose assez intéressante. C'est marqué, après je vous retrouve à ordonner à Noach de construire une arche. Il va construire l'arche pendant une centaine d'années. Et tout le monde va se moquer de lui, etc. Qu'est-ce que tu construis? Rien du tout. Et puis après je vous lui dis, voilà, maintenant il va y avoir la pluie. Et tu entres dans l'arche. Alors, le pasouk dit, dans le chapitre 7, prenez le chapitre 7, verset 1, Vayomer Hashem le Noach, Bo, Ata, V'chol Betra, El Hateva. Viens, toi et toute ta maisonnée dans l'arche. On va dans l'arche. Parce que j'ai vu que toi tu étais un tzaddik devant moi, dans cette génération-là, et tu vas prendre du bétail, etc., bon, et toutes les ordres. Et un peu plus bas, Hachem lui dit, il faut le faire parce que effectivement, il va y avoir 40 jours et 40 nuits de déluge. Et je vais détruire tout le Yakoum, tout ce qui existe. Alors, le verset 7, donc on nous a dit, Noach avait tout ce qu'Hachem lui a demandé de faire, lui a ordonné de faire, il avait 600 ans, Vehamabul haya maim al haaretz. Et le maboul, ce déluge d'eau, a lieu là, sur terre. Et le verset 1, le verset 7 dit, Vayavo Noach ubanav veishto unshevanav, Noach et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, avec lui sont entrés El Hateva, et le problème c'est les mots qui viennent, Mipne Mei Hamabul, à cause des eaux du déluge. Alors regardez ce que dit Rashi. Mipne me hamaboul, à cause des eaux du déluge, af Noach miktane amana haya. Noach lui aussi, il était faible en emouna. Il n'avait pas beaucoup de confiance en Hachem. Ma'amin ve'eno ma'amin. Il a construit l'arche pendant une centaine d'années. Il était sous les colibets, les moqueries, tout ce que vous voulez. Il n'arrêtait pas de dire aux gens, il va y avoir un déluge, etc., comme Hachem le lui avait dit, mais tout le monde se moquait de lui. Et néanmoins, Rashi vient et il nous dit ici, c'est Chazal, hein, il est comme ça ici, qu'il était ma'amin ve'eno ma'amin. Il y croyait et il n'y croyait pas.
Il a quand même fait l'arche.
Il a fait l'arche. Mais, on vient dire ici, il y croyait, il y croyait pas. Pourquoi?
Alors, il a fait...
Qui aurait le maboul, il n'était pas sûr. Velon nichnas la teva atche darku amay. Il est entré dans l'arche que quand il y a été contraint par les eaux du maboul. Vous voyez un bonhomme comme Noir. Finalement, ça veut dire probablement que l'ambiance était telle que même Noach, qui construit, comme vous faites remarquer justement, il construit l'arche, il fait tout ce qu'Hachem lui a dit de faire, mais il n'entre pas dans l'arche. Hachem lui avait dit, il va dans l'arche, mais tout seul, il n'y va pas. Tant qu'il ne pleut pas, il n'y va pas. Mais venez, mais un babou, d'un coup, il y a le déluge qui commence à s'abattre, voilà, il est entré dans l'arche. Et Rachid dit, ma'amin, véno ma'amin.
Il y a une note qui dit que, comment vous pouvez penser que, dernier moment, Hachem allait...
Oui, on peut...
C'est plus qui croyait plus à la miséricorde d'Hachem que...
Alors, ça, c'est une explication pour sauver la mise à Noach, d'accord? De dire qu'en fait, mais c'est peut-être tout à fait vrai, hein, c'est pas... Je dis pas ça que... C'est une façon... Comme on est d'Oresh comme ceci et d'Oresh comme cela, en tout cas, Rashi s'est pas privé de dire, avec Razal, qu'il faisait partie des Ktane Amana. Ça veut dire être petit dans la Emouna. Bon, c'est énorme. Avec tout ce qu'il a fait. Et ça, c'était le meilleur. Mais parce que, on n'a aucune idée de ce qu'était la pression, probablement, de ces générations du déluge, qui étaient tellement pourries. Ça ressemble un peu à la fameuse histoire du roi Menaché. Vous vous souvenez, je vous ai raconté souvent, que le roi Menaché était le grand roi idolâtre. Et il y a eu une discussion dans la Gemara. Dans Maseret Sanhedrin, on discute qui a Olam Haba. Et un jour, les Chachamim, ils sont arrivés à la fin de la discussion, Et il y en a un qui a dit, demain on va s'occuper des petits copains. Et les petits copains en question, c'était les rois. On va regarder parmi les rois qui a Relek Leolam Haba. Et tout le monde savait qu'on allait s'occuper de Menaché parce que c'était le star des rois idolâtres. Alors c'est marqué que celui qui a dit ça, en rêve, il a eu un rêve. Et dans son rêve, le roi Menaché est apparu. Il lui a dit, dis-moi, qui te permet de me traiter, tu me prêtes ton petit copain? Qui tu es pour me considérer comme ton petit copain? Il dit, est-ce que tu sais seulement où on coupe le pain quand on fait motzi? Il a dit, non seulement je ne sais pas, mais je ne savais même pas qu'il y avait un endroit où il fallait couper le pain particulièrement. Il dit, tu ne sais même pas couper le pain et en motzi, et tu dis de moi que je suis ton petit copain? Alors, bon, il a compris la leçon. Alors, le Amoraï, le maître d'Almara, il lui a dit, écoute, enseigne-moi comment on coupe le pain, et je l'enseignerai demain au Beit HaMidrash en ton nom. Alors il lui a dit qu'on doit couper le pain à l'endroit qui est le plus cuit. C'est-à-dire que quand vous prenez Shabbat, par exemple, votre pain là, il faut couper d'abord la partie la plus... celle qui a été cuite en premier, qui est la plus cuite. Donc, ça dépend... si, eux, ils avaient du pain qui était tapé contre le four, il était comme ça. Et on collait le... Donc, c'est pas du tout cette partie-là. C'est pas la partie qui était contre la paroi qui s'est cuite en premier, évidemment. Alors, chez nous, ça dépend si vous avez la chaleur tournante ou si vous n'avez pas la chaleur tournante pour savoir par où ça commence à cuire. Mais bon. Alors, bon. Donc, il lui a dit, voilà, c'est par là qu'il faut commencer à couper. Alors, il a enseigné ça le lendemain, effectivement, au Beit HaMidrash. Mais la Marelle continue la discussion entre eux dans le rêve. Il lui a dit, mais si vous étiez tellement grand au point de savoir rendre compte de la façon dont on doit faire dans la Torah, d'après la Torah, les gestes du quotidien, vous donnez du sens à chacun des gestes du quotidien, comment ça se fait que vous étiez idolâtre? Vous êtes crétin, ça veut dire... Alors il lui a dit, écoute, je vais te dire, la pression, elle était telle, nous, on avait des grands manteaux. Des grands manteaux qui allaient quasiment jusqu'au sol. Et on était contents parce que ces manteaux nous entravaient. C'est-à-dire, on ne pouvait pas marcher vite. Et on était contents parce que ne pouvant pas marcher vite... ça nous empêchait d'arriver tôt au temple idolâtre. Mais on ne pouvait pas résister. La réjouissance qu'ils avaient, c'est on va gagner quelques minutes grâce à nos manteaux. Il a dit, toi, si tu avais été dans ma génération, tu aurais relevé les pans de ton manteau pour courir plus vite. Tellement tu ne comprends même pas de quoi on parle. Alors c'est ça. Quand il y avait une pression... au point que le roi Menaché dit, on ne pouvait pas. C'est-à-dire, il faut s'imaginer, vous êtes dans un milieu où vous ne pouvez pas vous permettre de dire certaines choses et de faire certaines choses. Et effectivement, il fait ce qu'on lui demande de faire. Finalement, il va passer beaucoup de temps dans l'arche. Au service du... Il a fait que travailler au service du monde animal. Il devait nourrir tous ses animaux, etc. Bon, finalement, la pluie s'est arrêtée. L'arche s'est échouée. Il a pu sortir. Donc, bon, il sort. Et bon, il voit que tout est détruit, effectivement. Ensuite, après qu'il se soit rendu compte qu'effectivement tout était détruit, alors on reprend un peu et c'est marqué ce verset qu'on a dit à Rosh Hashanah, Vaizkor Elohim et Noach. Elohim s'est souvenu de Noach, c'est pas qu'il l'avait oublié. Alors, Rashi dit, c'est le verset, le premier verset du chapitre 8. Rashi dit, Vaizkor Elohim et Noach, Ze Hashem Midat Adin. Le nom d'Elohim, c'est un nom divin qui fait référence à la mesure de rigueur. Venefra le Midat Rachamim alidei Tfilat Hatzadikim. Et elle, cette Mida, elle est changée en Mida de Rachamim grâce à la prière des Tzadikim. Verish Atam shel Rishaim offert Midat Rachamim le Midat Adin. Et au contraire, la mauvaise conduite des Rishaim, elle transforme la Midat Rachamim en Midat Adin. Comme c'est marqué dans le pasouk, Vayar Hashem ki rabba ra'at à Adam, etc. As vayomer Hashem, emche. Je vais détruire, effacer la surface du monde. Vous, Shem midat rachamim. Alors c'est marqué Hashem. Vayomer Hashem. C'est Hashem qui dit je vais détruire. Pourquoi? Parce que les Roshaim transforment la midat rachamim, Hashem c'est le tétragramme, c'est la midat rachamim, en destruction. Il y a Elohim qui a pitié et Hachem qui sanctionne. Donc il y a un renversement. Alors, Vaizkor Elohim et Noach, Mazachar Lahem, la Behemoth. Shrut Shelo Ishritu Darkam Kodem Lachen. Shelo Shimshu Bateva. C'est marqué, Vaizkor Elohim s'est souvenu de Noach et de tous les animaux qu'il y avait avec lui dans la Teva. Et ce souvenir veut dire, il a regardé avec Rachamim, c'est-à-dire il a trouvé du mérite à ce qu'a fait Noach. Alors Rashi dit, mais alors quel mérite il a trouvé aux animaux? Qu'est-ce que les animaux ont fait pour mériter d'être sauvés? C'est intéressant, c'est que ces animaux, quelque part, bien qu'ils vont servir à la perpétuation ou la pérennisation de l'espèce animale en question, qui va en servir pour des corbanotes, pour de la nourriture, etc., il faut qu'ils aient un mérite. Ils aient eu un mérite. Alors Rashi dit, il y a deux mérites. Ils ont un mérite d'avant le Maboul, c'est que le monde animal n'a pas, ils se sont pas laissés influencer par les hommes au point de changer leurs fonctions, de changer leurs habitudes. C'est-à-dire que les hommes essayaient, avant le Maboul, ils essayaient d'accoupler des espèces qui normalement s'accouplent pas les unes avec les autres naturellement. Ils voulaient maîtriser complètement la nature et les obliger à fabriquer des chimères, enfin, pas des chimères ou des hybrides, je sais pas quoi. C'est la totale maîtrise, si tu veux, tu obliges des espèces qui ne sont pas interfécondes, qui donc naturellement ne s'accouple pas, à produire quelque chose ensemble. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils essayaient. Alors, les animaux, ils ne se sont pas laissés faire, en quelque sorte, ils n'ont pas tout changé. Il semble que le monde végétal, dans le monde végétal, ils ont réussi. Le monde végétal, c'est, a été détruit, en quelque sorte, du coup, dans le monde végétal, les règles de copollinisation ou je sais pas quoi ou de reproduction finalement elles ont été transgressées. Ils ont réussi à changer la nature du monde végétal. C'est pas très clair parce que a priori ils ont dû prendre des graines. Parce qu'est-ce qu'ils ont semé quand ils sont sortis? Et là on parle pas des graines qu'ils ont prises dans l'arche. S'il n'y avait pas de graines comment il ne devait plus y avoir il n'y a plus de végétaux. En tout cas, ici, Rashi dit, le mérite, c'est qu'ils ne l'ont pas fait avant, Et après, et pendant le... Alors, le problème, c'était la reproduction pendant le Maboul, dans l'arche. Alors, c'était interdit, formellement, aux animaux comme aux hommes d'avoir des rapports à ce moment-là. Pour pas qu'il y ait de reproduction, l'arche, elle ne pouvait pas contenir... elle n'était pas faite pour contenir des portées de lionceaux et de... etc. Alors, ces animaux, ils ont obéi à cette règle-là. On a imposé une règle et ils ont obéi. Et ça, c'est un mérite qu'ils ont eu. Maintenant, je voudrais revenir sur cette histoire de Midat Arachamim et Midat Adin. Parce que ça fait référence à ce qui est écrit tout au début dans Bereshit. Dans Bereshit, vous savez bien que le Bereshit Bara Elohim, ça commence avec la Midat Adin. Et Akadosh Baruch Hu rapporte.
Comment on peut dire, juste, comment vous rapprochez ce premier verset avec. Ça a été fait avec la Midat Adin.
C'est écrit, Bereshit Bara Elohim. Alors, Rachidim, le Rachid n'est pas. Oui, à la fin du premier Rachid, sur Rachid commande Bara Elohim, Rachid dit Velo Amar Bara Hashem. Pourquoi c'est pas marqué Bereshit Bara Hashem? Marqué Bereshit Bara Elohim. Alors Rashi rapporte, Batrila ala bemarchava livroto bemilat adin. Là, littéralement ça veut dire, dans la pensée divine est montée en premier l'idée de créer le monde selon la Midat Adin, selon la rigueur. Et il a vu que le monde, dans ces conditions-là, ne durerait pas. Il ne pourrait pas tenir le monde. Donc, il a mis en avant la Midat Arachamim. Et il l'a associé à la Midat Adin. C'est pour ça que par la suite, ce sera marqué Beyom Asot Hashem Elohim et Hashamayim Eretz Veshamayim. Écrit plus bas, le jour où Hashem Elohim, les deux noms sont marqués. Ça s'appelle Shem Malé, le Shem plein, avec Elohim et Hashem. Alors la question qui se pose, c'est une question qu'on a vue dans les vieux films de Rosh Hashanah et Kippour, marqué partout, même plusieurs fois, que dans le jugement à Kadosh Baruch Hu qui était sur le siège de Din, il passe du siège de son siège de Din au Kissé Rachamim, au siège divin Rachamim. Mais tout ça se passe dans le jugement. Et qu'est-ce que c'est que ce jugement si tout à coup on passe à Rachamim? On n'est plus dans le jugement. Si on est sur le Kissé Rachamim, on n'est plus sur le Kissé Adin. Or, ça, c'est décrit, on est en train de décrire le processus du jugement de Rosh Hashanah. Alors, comment c'est possible? Alors, il faut comprendre ici, c'est un peu compliqué, mais ça n'a pas de sens de dire que Hachem, il a, en quelque sorte, ajouté la Midat à... Comment il l'a... Ça veut dire qu'il l'a ajouté la Midat à Rachamim, à la Midat à Din. Ça veut dire quoi? On va juger quelqu'un, puis après on va dire, oh, pauvre chéri, il faut... bon, on va lui... Et puis on va lui... On va diminuer la... On va adoucir le jugement. C'est quoi?
C'est peut-être prendre en compte les circonstances atténuantes.
Par exemple, c'est une façon de faire, de considérer les circonstances atténuantes. c'est possible. Mais alors comment est-ce qu'on considère dans la notion de jugement, quel est le rôle, enfin comment ça fonctionne les circonstances atténuantes? On juge quelqu'un, voilà, il a tué. Je veux dire, il a tué parce qu'il était déprimé, ou il a tué pour cette raison ou une autre. Sauf il a tué. Alors, il faut dire probablement qu'il y a là quelque chose de très important. Il y a, une nouvelle définition du din. Le din, tel qu'il est, c'est... Dans le din, il y a une composante de rachamim. C'est pas qu'on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans le din, il y a du rachamim. Alors, on peut dire que le rachamim, c'est de bien vouloir considérer les circonstances atténuantes. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si, au fond, c'était, je dirais presque, comme si c'était un père qui jugeait, et pas un juge. Un père qui juge ses enfants. Alors, sauf, il est le père, quand même. Alors, bien sûr, il doit les juger, mais il y a aussi sa composante de père qui va influencer le jugement. On ne peut pas faire abstraction de sa condition de père. Et donc, ça veut dire que le jugement d'après la Torah, désormais, la Midat Adin, c'est une Mida dans laquelle il y a aussi une composante de Rachamim. C'est pas tranché, quoi, quelque part.
Ça rejoint peut-être en droit français. Il y a des types de jugement où on juge in abstracto, c'est-à-dire en faisant abstraction complète
du contexte,
des gens, etc. Et puis il y a des jugements au contraire où on juge in concreto.
Mm-hmm.
On se rend compte que la personne en question qui a fait l'acte qui est répréhensible, elle était ci, elle était ça, elle était dans telle circonstance, etc. Et tout. C'est-à-dire qu'on passe du cas un peu théorique au cas vraiment concret auquel.
Les cas concrets, par exemple, quand vous êtes en légitime défense, vous avez tué quand même. Celui qui tue en légitime défense, il a tué, ça fait aucun doute. Si tu regardes qu'est-ce qu'il a fait, ben il a tué. Ok, mais s'il l'avait pas fait, c'est lui qui était tué. Ok, on peut se demander, ok, est-ce que ça a le droit, sauf sur le papier, est-ce que ça me donne le droit de tuer l'autre? Lui veut me tuer, mais est-ce que ça me donne le droit de le tuer lui? On est très habitué à ce que la légitime défense me permet de tuer. Mais peut-être qu'il faut se laisser tuer. Peut-être que quand la Gemara elle dit qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien, elle le dit pas dans cette circonstance, elle le dit lorsqu'on met un pistolet sur la tempe de quelqu'un et qu'on lui dit tue l'autre. C'est un des trois cas, donc, où il y a une mitzvah de Kiddush Hashem de se laisser tuer plutôt que de tuer l'autre. Avec le fameux principe de qui te dit que ton sang est plus rouge que le sien. Ça veut dire... Mais, à la limite, on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'on se laisserait tuer plutôt que de tuer l'autre? Justement parce que le geste de tuer en tant que tel dégrade celui qui le fait. Mais là, donc dans ce cas-là, il faudrait regarder et dire que accepter que l'autre me tue, c'est comme si moi je prenais à mon compte le geste de l'autre quand il va me tuer. Parce que sinon on ne comprend pas. Donc il faut dire que l'autre qui me menace de me tuer si je ne tue pas l'autre, ce geste-là, quand je dis tue-moi plutôt que je tuerai pas l'autre, donc ok, alors je vais te tuer, mais c'est toi qui prends la responsabilité de ce que je te tue. Donc c'est comme si tu te suicidais, quoi, finalement. C'est se suicider par une main étrangère, mais c'est un suicide. Et peut-être je peux très bien dire, mais moi je veux pas me salir les mains, je veux pas, c'est un truc, mais en réalité tu te salis aussi les mains, c'est ça le problème. Pour que le problème soit entier, il faut dire que tu te salis aussi les mains en acceptant que l'autre te tue. Parce que sinon, on peut dire, c'est clair qu'il faut choisir de se laisser tuer. Je ne vais pas me salir les mains. D'accord, c'est... Donc, ici, on voit, donc, Elohim a tenu compte, en quelque sorte, de la conduite du monde animal pour le sauver. Bon, ça dure encore un peu. Et à la quatrième montée, au verset 15 du chapitre 8, Vaidaber Elohim El Noar, c'est mort, Tse Mina Teva, sort de la Teva, donne l'ordre de sortir. Toi, ta femme, et tes enfants, et les femmes de tes enfants, avec toi. C'est intéressant parce que dans l'ordre de sortie, regardez l'ordre tel qu'il est donné sur la sortie, qu'on vient de lire ici, avec l'ordre sur l'entrée. C'est pas la même chose. Ils sont pas entrés de la même manière. Ça, c'est le verset 7 du chapitre 7. Ils sont entrés.
Les hommes d'abord.
Et les femmes ensemble, après. Tandis qu'ici, ils sont entrés, ils sont sortis par couple. Noach et Madame Noach, et les fils, chacun avec sa femme.
Ça veut dire qu'il... Ils sont rentrés et ils ne cohabitaient pas.
Puisqu'il ne fallait pas cohabiter, dans l'entrée, ils se sont tout de suite séparés. Et après, quand ils allaient sortir pour une vie normale, alors c'est normal qu'ils fonctionnent en couple, sortent en couple. Qu'est-ce que fait Noah quand il sort de la Teva, de l'arche? Alors au verset Kaf du chapitre 8, Vaïven Noach Misbeach Lachem. Immédiatement, il a construit un autel pour Hachem, pour faire le sacrifice. Vaïkach Mikol Abema Teoram, Mikol Of, Kol Of Ataor, Vaïal Olot Bamisbeach. Et il a fait des holocaustes avec les animaux qui lui ont été prescrit, qu'il a reçu l'ordre de faire entrer en plus grand nombre d'ailleurs que simplement pour assurer la pérennité de l'espèce, parce qu'avec cela on peut faire des corbanotes. Alors c'est ce qu'il a fait tout de suite, il fait des corbanotes alors on ne nous dit pas grand chose d'autre, il a fait des corbanotes. Pourquoi, si vous voulez, la question se pose sur le principe même des corbanotes. On va tuer les animaux pour rien. Pourquoi? Tu vas les tuer, tu vas les brûler. De quel droit est-ce qu'il a fait les corbanotes? De quel droit il a pris des animaux, il les a tués? Peut-être qu'il fallait les lâcher dans la nature, peut-être il fallait les élever. Regardez ce que Rashi dit. Rashi dit, Lo tziva li HaKadosh Baruch Hu l'achnis me'elu zayin zayin. Hashem ne m'a pas donné l'ordre de faire entrer dans l'arche 7 couples de chacune de ces espèces-là, alors que dans d'autres, c'est seulement un couple. D'accord ? Donc à quoi ça sert ? Pourquoi il m'en demande plus ? C'est pour apporter des corbanes. Que des lacrives corban, mais c'est sûrement pour apporter un corban. D'accord ? Ça veut dire, il comprend que pourquoi 7 ici et 2 là-bas ? C'est-à-dire les animaux qui ne sont pas approchables sur le Misbéach, Hachem lui a donné l'ordre de l'entrée d'eux. Il faut assurer la pérennité, c'est tout. Et les autres, il y a 7, alors il dit, bon, c'est quoi, j'apporte des corbanotes. Donc, c'est-à-dire, d'où il a pris l'idée qu'il devait apporter des corbanotes ? Alors, des corbanotes, il y en avait avant le Maboul. Adam Arishon a apporté un corban. D'accord ? Et vous voyez, c'est des corbanotes qui sont entièrement consumés. Ce qu'on appelle une holocauste. Après, il n'y a pas encore des shlamim, il n'y a pas encore des corbanotes qui sont des corbanotes dont les propriétaires vont manger la viande après qu'on ait mis une partie sur l'autel. Ce sont que des holotes, holocaustes. Alors ensuite, on dit Vayarach, Hashem et Reach Anichoach, Vayomer Hashem en Libo, לא הוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולהוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי. On a l'impression que c'est en réaction à l'homme, à la démarche de Noach. Et là, ça c'est un peu curieux. Pourquoi est-ce que ça... Il avait besoin de Noach pour prendre cette décision. Un peu compliqué. Effectivement, quand je juge que bon, les hommes ont pris la leçon. Les hommes, en l'occurrence, c'est Noach. Il a pris la leçon. Et donc, c'est terminé. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Ça, cette phrase-là, elle est prise directement de la sanction d'Adam Arishon après la faute. Hachem a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Ici aussi, je ne maudirai plus la terre à cause de toi. Alors il dit pourquoi je ne maudirai pas. Parce qu'il dit qu'il y a le penchant de l'homme, du cœur de l'homme littéralement, est mauvais depuis sa prime jeunesse. Et le Hamek Davar, il dit, le Yetzar lève Adam Ram in Eurav, donc.
Et pourquoi ça passe par un holocauste? Puisque.
L'holocauste, vous voyez,
ça va se rapprocher, ça sert à ce. Pourquoi ça vient à ce moment-là? C'est bizarre, parce que. Il avait quand même obéi,
il n'a pas fait une faute, c'est pas un corban qui vient pour une faute.
Voilà, oui.
Ce corban, il vient. Il a compris qu'Hachem veut un corban. Pourquoi? Sinon, il ne m'aurait pas demandé. C'est intéressant, il n'a pas de motivation. Oui, on ne nous dit pas qu'il a apporté un corban en reconnaissance pour Hachem, pas du tout. Comme dit Rashi, il a dit, c'est un midrash que Rashi cite. S'il m'en a demandé plus dans cette espèce-là, c'est pour faire des corbanotes. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire avec avec des animaux, si ce n'est des corbanotes? Parce qu'ils ne peuvent pas tuer les animaux pour manger encore.
Donc en fait, c'est comme si.
Adam Arishon, il pouvait manger de la viande, mais seulement de la viande qui était déjà morte.
C'est comme s'il lui donnait la possibilité de faire une mitzvah pour les sauver. C'est comme s'il lui donnait la possibilité de faire une mitzvah. Ça, ça me fait penser un peu à la sortie à Pessah, quand il
voulait donner
la possibilité d'avoir
des mérites.
Oui.
Oui, mais là, on a vu, je vous rappelle que on a vu que les hommes et les animaux avaient déjà des mérites, c'est pour ça qu'ils ont été sauvés. Ça, on a déjà vu ça.
Ils ont alors, oui, alors d'accord.
Donc, c'est pas, on n'a pas besoin de cette mitzvah-là pour être sauvé. Mais ici, je pense que la question c'est, d'habitude on dit que Adam était végétarien, mais c'est pas vrai. C'est, le Midrash dit qu'il y avait des anges qui lui faisaient des méchouis en permanence. T'as pas entendu, Laurent? Il faut pas dormir quand on parle des méchouis, c'est important. Et alors, je crois que on n'a pas encore du tout l'idée des korbanot. Le korban, c'est une offrande. Et lui, il a compris qu'il fallait faire ce geste. C'est intéressant, il n'y a aucune connotation morale dans son geste.
Non, non, c'est comme quoi, évidemment, ça n'avait rien à voir avec une faute et ce serait un Dieu vindicatif et que ça, c'est évidemment pour se rapprocher. Mais on a l'impression quand même qu'il est proche, là, déjà. Alors, pourquoi encore? Pourquoi, à la limite, pourquoi Hachem lui demande ça? Qu'est-ce qui lui manque pour que on continue et qu'après il pense que Hachem dit qu'il n'arrête, qu'il ne fera plus le début?
Alors, je ne réponds pas tout de suite à votre question, je ne sais pas si je répondrai après, mais pas tout de suite. Le verset 21, juste après le. On dit, voilà, il a fait les holocaustes. Et le verset dit, Vayah Hashem et Reach Anichoach, Akadosh Baruch Hu a humé, il a respiré le parfum, l'odeur agréable. C'est que cette histoire. Alors, la Gemara dans Eruvin, elle dit, c'est Rav Hanina, elle dit que quiconque se laisse apaiser grâce à l'ambiance créée par le vin, se laisse apaiser à quelque chose de l'esprit de son Créateur. Il imite le bon exemple donné par Hachem, à qui il suffit de sentir l'odeur délectable de l'offrande de Noach pour jurer de ne plus maudire le monde. Alors, c'est marqué dans Pirkei Avot, mais on lit aussi dans B'chol Ma'aminim, Shehu Kashe Lichos, qu'il est lent à mettre en colère. Hachem, c'est une qualité d'Hachem, il ne se met pas facilement en colère. Et dans Pirkei Avot, on dit celui qui est pieux, c'est celui qui s'emporte difficilement et qui s'apaise facilement. Et Akadosh Baruch Hu avait attendu 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach avant d'envoyer le Maboul, alors qu'ils n'ont pas arrêté de mettre Hachem en colère. C'est le maître. Et donc, c'est pour faire connaître combien grande est la longanimité d'Akadosh Baruch Hu que les holotes de Noach suffisent à apaiser instantanément la colère divine. Pour démontrer que c'est pas qu'il a besoin de ça, mais pour nous montrer cette colère divine, immédiatement après le Maboul, tout de suite, si tu fais ce qu'il faut, tu fais ce que je te demande, Ça y est, on... Hachem aurait pu, disons, punir l'humanité encore, continuer de lui en vouloir. J'ai détruit l'humanité, et l'humanité résiduelle, c'est le nouveau monde, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas oublier. C'est une espèce de création du monde avec cette fois-ci une famille, quoi. Un homme et une famille. Un homme et trois fils.
En fait, il posait le premier acte qu'il posait était un acte
d'apaisement.
Oui.
Où Hachem montre qu'effectivement il ne tient pas rigueur de. On efface ce qu'ont fait les générations précédentes.
L'apaisement, il est de fait. Le fait que le déluge s'arrête, l'apaisement est de fait.
Non, bah, si le déluge s'arrête jamais, il n'y a plus personne.
Donc, de fait, le fait que le déluge s'arrête.
Non, mais ça, on peut dire, c'est parce qu'il a quelque chose, il veut continuer son projet. Et maintenant, montrer qu'il n'en veut pas aux hommes, alors il enlève quelque part une espèce de clala. Quelque part, il est en train d'atténuer la clala qui a été donnée à Adam. Parce qu'il prend les termes même de la clala, la malédiction qui a été donnée à Adam, et il dit, je ne ferai plus ça. Et enfin, on peut aussi dire que l'accent ici, il est mis sur l'odorat. Parce que, comme vous savez, l'odorat, c'est le seul sens qui n'a pas été abîmé par la faute d'Adam Harishon. Dans les cinq sens, les quatre ont été endommagé en quelque sorte, la vision, le goût et le toucher. C'est dit sur le fruit de l'arbre qu'ils ont mangé, ils n'auraient pas dû. Mais il n'y avait on n'a pas endommagé l'odorat. Et donc dire que par ce biais-là, c'est-à-dire, c'est l'odorat, et puis en plus l'odorat, enfin, les odeurs, c'est le. C'est le plus éthéré, c'est le moins concret, en quelque sorte. C'est pour ça que le ktoret a tellement d'importance, l'encens a tellement d'importance, parce que c'est justement c'est extrêmement fin, quoi. C'est pas, il n'y a pas la grossièreté de la viande, quoi, de la shrita, et du sang, c'est bien, d'accord, c'est prescrit, mais c'est un peu grossier, quand même. Là, c'est beaucoup plus fin.
Mais pourquoi après ce qui suit, il dit je ne continuerai plus à redire la terre à cause de l'homme, car la conception du cœur de l'homme est mauvaise dès son enfance.
Oui.
Là, il n'y a pas besoin de ça, Hachem, pour savoir que c'est dès l'enfance le c'est ça dont il parle. Là. Pourquoi à ce moment-là, j'arrive pas à avoir les ponts?
Bon, justement, comme Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec le Yetzirah aussi, et que dès que l'enfant est né, il a déjà du Yetzirah, il n'y a pas seulement du Yetzirah, mais enfin, essentiellement Yetzirah, parce qu'on dit que le Yetzirah Tov, il vient à la Bar Mitzvah seulement. Et donc, et c'est pour ça que je vous ai lu le Amek Davar qui dit, parce que le Yetzirah est mauvais initialement, dès le départ, il est vraiment mauvais, et donc on a tendance à au vol, on en vient à voler à cause de ça. La Torah, elle dit très clairement, le problème du vol. Pourquoi est-ce qu'on parle du vol? Parce que Chazal disent que même si quelqu'un a toute une charrette d'Averot, tant qu'il n'y a pas le gezel, tant qu'il n'y a pas le vol dedans, alors personne crie au voleur. Donc ça peut passer. Et quand il y a le vol, alors il y a quelqu'un qui attaque. Tant que même si ça touche les autres gens, en général, les gens, ils crient moins. On peut crier à l'assassin, mais on crie facilement au voleur. Le vol, ça attire l'attention sur la charrette de toutes les fautes. Donc il dit, puisqu'il y a un principe, effectivement, de mal, et que ce principe du mal est finalement ce qui a entraîné l'intervention d'Hachem dans le monde, le Maboul. Remarquez que avec tout ce qu'il avait fait, Tarayot et tout ce qu'il faisait, finalement le sort a été scellé à cause de Gezel.
C'était quand même un vol avec violence.
Hamas, il y avait Gezel et Hamas. Hamas, c'est avec violence. Mais Gezel, c'est sans violence.
Et Gezel et
Hamas.
Ah, c'est pas que le.
Non. Il y avait Gezel et Hamas. Et du coup, en fait, quand je vous dis, il va y avoir. Je vais laisser le monde fonctionner normalement, avec des époques enfin, des saisons, si vous voulez. Donc, j'ai l'impression que on veut dire ici que Akadosh Baruch Hu va fixer désormais des, par exemple des saisons où il fera froid, les saisons où il fera chaud, et ça ne dépendra pas de la conduite des hommes. Comme si auparavant il faisait froid ou chaud, ça dépendait de la conduite des hommes. C'est-à-dire on n'avait pas un rythme qui était donné, le rythme des saisons. Il y avait le rythme du jour et la nuit, ça a été donné dans Maaseh Bereshit déjà, mais après les autres rythmes, essentiellement sur les saisons, donc avec tout le problème de l'agriculture, de la nourriture, etc. Et là maintenant, il y a quand même des choses fixes qui ne vont pas dépendre uniquement de la conduite des hommes. C'est ça qu'Hachem dit. Voilà, puisque le Yetzara, il est là depuis le début, donc voilà, il faut. Je ne peux plus le détruire, je ne vais pas détruire le monde. Ça veut dire que c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu a compris quelque chose qu'il n'avait pas compris avant.
Ah oui.
C'est qu'en fait, la présence du Yetzer Hara, elle est nécessaire. Vous connaissez la Gemara, elle dit que après la destruction du premier Beit Hamikdash, les Bnei Israël, ils sont tournés vers Hachem, ils ont dit écoute, on n'y arrive pas. Le problème de l'idolâtrie, on n'y arrive pas. C'est pas possible. On n'arrive pas. Et ils ont prié pour que disparaisse le Yetzara d'Avodah Zara. Ça veut dire pour que disparaisse la virulence de l'idolâtrie. Ce que je vous ai dit avant de Menaché, on ne pouvait pas résister. Non, ça existe encore l'idolâtrie, mais ça n'a plus du tout cette virulence. Donc ils ont prié ça, et ça a marché. On a quelqu'un qui dit, alors on devrait prier pour que le Yetzara s'arrête complètement. Comme ça, on y arriverait aussi. Alors, elle dit que, ok, Hachem a dit si vous voulez, d'accord. Le lendemain, il n'y avait plus une poule qui pondait un œuf. Le Yetzara, il est absolument nécessaire pour la reproduction, pour. S'il n'y a pas de Yetzara, personne ne se marierait, je veux dire. S'il n'y avait pas de. Pourquoi se charger? Donc, il n'y aurait pas d'enfants, il n'y aurait pas de futur, il n'y a pas de. Personne ne bougerait. Et donc. Le Yetzara en tant que tel, il est nécessaire. Mais le problème, c'est un problème de rapport. D'accord, il y a entre chez tout le monde, avec les deux Yud, va Yitzer, Hachem, Adam. Donc, là, il a créé avec les deux Yetzer Tov, Yetzara. Et puis, il faut les faire jouer pour qu'il y ait une espèce de compensation ou de collaboration entre le Yetzerato et le Yetzerara en réalité pour faire réussir les choses. C'est.
Moi, ce que je comprends, c'est on est arrivé à un point culminant du Yetzerara, qui a la boule, un nouveau monde commence, parce que c'est quand même la première action. Que nous, si on est dans, on suit les pas à pas, c'est la première chose qu'il fait.
Oui, tout à fait.
Donc, il pourrait faire autre chose. Il pourrait ne pas être, ne pas avoir compris qu'il y avait des animaux en trop et qu'il fallait donc faire des sacrifices. Donc ça veut dire que...
Mais il avait le temps de réfléchir quand même. Hein.
Oui, il avait le temps, d'accord. Oui, mais il pouvait, on pourrait dire que Yetzerara pourrait continuer. C'est donc, il y a quelque chose qui a...
Mais il va continuer, il va continuer, Yetzerara.
Oui, il va continuer, mais la première chose qu'il fait, c'est quand même une reconnaissance. Alors du coup, on peut continuer à vivre, non?
Justement, ce dont je ne suis pas sûr, c'est ce que vous avez fait remarquer, je ne vois pas, si vous voulez, dans le Corban de Noach, une quelconque reconnaissance ou simplement, bon, Hachem m'a demandé de faire ça puisqu'il m'a donné les animaux. Mais ce n'est pas son initiative. On pourrait dire que c'est une initiative de réfléchir pourquoi est-ce qu'il m'en a donné 7 ici et 2 là-bas.
Et lui a même d'ailleurs, il lui a dit tu feras un sacrifice.
Non, mais c'est pour ça que Rashi explique, il a compris tout seul. Le Midrash dit qu'il a compris pourquoi il y a deux poids, deux mesures entre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas le même nombre de bêtes sacrifiables et non sacrifiables. C'est parlant quand même. Il voit bien qu'il y a ce qui peut aller sur Misberg et ce qui ne peut pas aller sur Misberg.
Mais pourquoi cette odeur, ça change tout, tout ça va tout changer.
Alors, c'est ça, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans un holocauste si ce n'est l'odeur? Qu'est-ce qui monte? Il n'y a que l'odeur qui monte.
D'accord, mais à travers cette odeur, ça dit autre chose.
Oui, ça dit que Akadosh Baruch Hu, enfin, ça dit que Akadosh Baruch Hu accepte cette offrande, parce qu'il y voit ici une démarche dans laquelle il n'y a que la partie non abîmée de l'homme qui s'exprime.
En premier, qui s'exprime en premier.
Après, le reste ne s'exprime pas. Il ne s'exprime pas vraiment. Hachem, il n'a que l'odeur là-dedans. Tout est brûlé.
Oui, mais c'est la première chose qui s'exprime quand il débarque.
Ah oui, ça oui. Oui, oui.
Donc, ça veut dire qu'il pourrait avoir... Le Yetzirah aurait pu continuer, mais à prendre le dessus.
Oui, il aurait pu commencer par avoir des rapports avec sa femme, quoi.
Par exemple, oui, voilà, ouais, voilà.
Et alors, Akadosh Baruch Hu leur permet ici de manger de la viande. C'est-à-dire, elle leur permet de tuer des animaux pour les manger. Ils pouvaient manger de la viande avant, mais ils n'avaient pas le droit de tuer des animaux pour ça. Il fallait attendre que l'animal meure. Ils mangeaient en fait que les animaux morts. Ils mangeaient de la viande, mais seulement ils ne pouvaient pas tuer pour ça. Il fallait attendre que l'animal meure.
On n'a plus le droit de faire maintenant.
Je pensais que c'était
plus... Et maintenant, on ne peut plus manger la nevela.
Oui. Je pensais que c'était plus lié au fait qu'ils avaient trouvé une terre dévastée et donc ils n'avaient du coup plus rien à manger.
Et donc, je ne crois pas parce qu'on... Non. Si c'est comme ça, Hachem pouvait faire en sorte que ça pousse rapidement et que...
C'est clair parce que dès qu'ils sortent pour faire manger la nevela, voilà, ils manger la viande.
Les bnés noirs eux-mêmes, le seul interdit alimentaire qu'ils ont, c'est un guide à la chair. C'est les vermines à pardon. Ils ne peuvent pas manger de la chair d'un animal qu'on a prélevé sur un animal vivant. On ne peut pas arracher un cuisseau de je ne sais plus quoi. Enfin, ça dépend si c'est ôté ou eu. Un chevreuil. Non, mais il ne peut pas le manger. Il pourrait le griller tout de suite. Il arrache un animal, un morceau, et tu le grilles et tu le manges. Quoi ?
Vous avez cautérisé la bête
ou... Non, mais il peut s'en fiche. Ça va les frais. Imaginez quelqu'un, il est sauvage, et voilà, il a un animal qui est pris dans un piège, il mange comme le lion, il n'attend pas que la gazelle soit morte. Il mange. Il l'assomme et puis il mange. Donc ça, c'est maintenant permis. Puisque c'est permis, il viendra la septième, parce que il y a six mitzvot qui ont été données à Adam Arishon. Adam Arishon ne pouvait pas lui donner l'interdit de Ever Minachai puisqu'il ne pouvait pas manger du chai. Maintenant qu'on leur permet de manger du chai, alors on a dit le chai tu peux manger, mais pas Ever Minachai. Pas un membre d'une bête que tu prélèves sur un animal vivant. Et ensuite, il y a le fameux verset, le verset du chapitre 9, verset 6, qui dit « Shofer dam adam ba adam damo y shofer » qui betzelem elokim asait à Adam. Ici, c'est l'interdit de l'avortement pour les noirs. C'est comme un crime, un avortement. C'est Dam à Adam, Ba Adam, verser le sang de l'homme dans l'homme. C'est tuer un fœtus. Im yesh edim amitu atem. Nama ki betzelem. Pourquoi est-ce que c'est interdit? Parce que c'est betzelem elokim. C'est déjà betzelem elokim. Et ensuite, il répète ce qui avait été donné comme ordre à Adam. Va'atem pru urvu shirtzu va'aretz urevuva.
C'est le premier ordre. C'était même le premier qui avait été donné à
Adam. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pru urvu. C'est-à-dire fructifiez et multipliez-vous. Et là, il dit un peu plus que ce qui est dédié à Adam et Chava. Là-bas, c'est marqué seulement pour vous. Ici, c'est marqué Shirtsu va aretz. Et encore une fois, répétez Urevu va. Alors, Achille, il avait un problème. Ça a déjà été dit à Adam. Pourquoi on le répète? Alors, Achille dit. D'après le pshat, la première fois c'était une bracha. C'était pas un ordre. Maintenant qu'il y en a deux, on peut dire comme ça. Je pense que s'il n'y en avait qu'un seul, on dit que c'était un ordre. Je sais pas. En tout cas, il dit que c'était une bracha qu'Hachem m'avait donnée. Je vous donne une bénédiction que vous vous multipliez et vous fructifiez. Alors maintenant, on parle d'égoïne hein, ici. C'est les Bnei Israël. Non, mais nous, on aura une mitzvah, mais c'est comme ça. Quand un ordre a été donné à l'humanité en tant que telle, et que ça n'a pas été répété par la suite, alors c'est les Bnei Israël qui l'ont. Mais si ça a été répété, alors les Bnei Israël, ils ont la répétition, et les Goïm, ils ont la première chose qui a été dite, c'est pour eux. Ici, mes répétitions, c'est répétition après Matan Torah, pas ici. Mais ici, c'est bracha et la première, c'est une bracha et le second, c'est un ordre. Ou le fi midrasho et le midrash d'Irachi, c'est la kish misheno seg v'peria verivia le chauffeur tamim. Considère que celui qui s'occupe pas d'avoir des enfants, c'est comme s'il tuait. Comme s'il versait du sang, donc c'est l'expression pour tuer. La Gemara est considérée comme ça. Celui qui s'en occupe pas. Et c'est ça le reproche que Yeshayahu a fait à Chizkiyahu, son cousin, quand il est entré et qu'il a dit à Chizkiyahu, au roi Chizkiyahu, il dit tu vas mourir, prépare-toi, tu vas mourir. Alors Chizkiyahu lui a dit, ça va pas, non, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, parce que tu t'es pas marié. Parce que nous, la mitzvah de Kriya Veriva, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? C'est seulement se marier. Il n'y a pas de mitzvah d'avoir de l'enfant, c'est pas dans notre pouvoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est se marier pour avoir des enfants. Maintenant, si on les a, on les a pas, ça après coup, il y a un problème de savoir après combien on peut considérer qu'on a déjà fait la mitzvah et qu'on n'a plus d'obligation à la limite, si quelqu'un se retrouve, par exemple, avec une femme qui ne peut plus avoir d'enfant, alors qu'il a déjà eu Benoubat, par exemple.
Il a déjà eu quoi ?
Un homme, un garçon et une fille. Ah. C'est le chiot. Un garçon et une fille, donc il est, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une mitzvah de... Il y a des psukim sur lesquels on se base pour dire qu'il reste encore... Si on le fait, si on a d'autres enfants, alors c'est encore une mitzvah. C'est une espèce de mitzvah kiyumit, c'est-à-dire une mitzvah si... Si tu le fais, c'est une mitzvah, mais tu n'as pas d'obligation de le faire. Mais là, ici, il y a ici un terme qui me dérange énormément. Bon, ça ne dérange pas toujours tout le monde, donc ce n'est pas très grave. Mais moi, j'ai toujours beaucoup de mal ici. Là, vous avez probablement, comme j'en ai déjà parlé, oui. Le problème, c'est que c'est écrit Shir Tsuba. C'est aussi dit sur les Bnei Israël en Égypte. La racine de Shirtsu, c'est Sheretz. Sheretz, c'est un insecte. Et donc, c'est Shirtsu, ça veut dire pulluler. Et j'ai toujours beaucoup de mal quand on parle des humains et qu'on parle de pulluler. D'accord ? Parce que tout le monde sait que quand dans les films d'horreur, on veut dégoûter, faire peur aux gens, on leur montre le pullulement, justement.
Ça grouille
de partout. Et dire que Hachem leur a enjoint de pulluler. Shirtsu va'aretz. Et remplissez-la. Revous va. Et multipliez-vous. En plus, bon, ça c'est pour l'humanité entière, mais c'est répété que les Bnei Israël en Égypte, ils ont pullulé. Et du coup, les Égyptiens, ils terrorisaient parce que. C'est pourquoi la Gemara dit que les femmes, elles avaient 6 enfants à la fois. Donc, elles s'extuplaient à la chaîne. Donc, ça, l'idée, c'est qu'il y avait partout des gosses. Quoi, donc,
vous pensez, du coup, qu'il y aurait une ambivalence dans ce terme
Non, il n'y a pas d'ambivalence. C'est moi, j'ai une petite nature. Je suis dérangé par. Par le mot, l'idée même de comparer la reproduction humaine au pullulement des insectes me dérange. Mais bon, avec le temps,
En hébreu, c'est vraiment pullulement, c'est ça?
Oui, bien sûr, c'est chéretz. Un chéretz, c'est un insecte. Alors, il y en a qui disent que c'est pas vrai, que chéretz, ça veut dire beaucoup, etc. Et après, ça a été déformé de façon normale, mais déformé dans la langue. Bon, il y a des gens qui essaient de me consoler. Mais c'est pas.
Ça pue quand même.
Oui. C'est pas tellement grave, mais. Bon, c'est comme ça.
Non, parce qu'on pourrait dire que tout est déjà dit, quoi. Fructifier, croiser, bon.
Oui. Quand tu viens dire pulluler, c'est vraiment, tu viens. C'est le marteau, je veux dire. C'est énorme. Une fois que t'as déjà dit fructifiez, multipliez-vous, bien après c'est encore marqué pullulez et revous, va, de nouveau. Revous, une deuxième fois, rave, beaucoup. Multipliez-vous.
C'est pas un peu pour effacer l'anéantissement qui a eu lieu avec le Maboul directement.
Ah oui, bon, tu peux dire qu'effectivement il s'agit de remplir la terre pour remplacer, mais ça me rassure. Console pas complètement, mais tu as probablement raison. C'est sûr qu'il fallait remplir.
Peut-être qu'à l'époque, les insectes n'avaient pas aussi de mauvaise presse que maintenant pour nous. Peut-être que les insectes c'était.
Non, mais je suis souvent admiratif des insectes et je pense que c'est très bien qu'il y ait des insectes, etc. Mais pourquoi utiliser les mêmes termes pour les hommes? Ouais. Bon, les insectes ne seront peut-être pas dérangés du fait qu'on utilise les mêmes termes que pour les hommes que pour eux, mais moi, je suis dérangé un petit peu. Enfin bon, c'est pas fondamental. Alors de nouveau, ce qui va se passer, c'est qu'on fait tout le temps la même erreur. Caïn et Abel, ils se sont partagés le monde. Ça a amené la mort de Abel, et ultimement celle de Caïn aussi. Disparition, la quasi-disparition de Caïn. On n'est pas sûr parce que la femme de Noach, elle s'appelle Naama. Et la dernière descendante de Caïn s'appelle Naama aussi. Donc la question c'est, est-ce que Madame Noach, c'est la Naama de Caïn ou pas? Si c'est la Naama de Caïn, alors je souhaite, je vous annonce qu'on a tous du Caïn en nous. D'accord? Puisqu'on descend tous de Noach et de Madame Noach, et donc on a tous du Caïn en nous. Si c'est une autre, je ne sais pas d'où elle vient. Bon, on ne connaît pas les noms de toutes les femmes. Mais deux fois Naama à très peu de distance dans la Torah, dire que ce n'est pas la même, ce n'est pas évident. Donc, quelque part, on a l'impression qu'on a quand même un fil conducteur avec Caïn. Par le biais de sa descendante ultime, Naama, qui est Madame Noach. Et donc, les enfants de Noach, les enfants d'Adam, ils s'étaient partagés le monde en deux, parce qu'ils étaient deux. Les enfants de Noach, ils sont trois, ils ont partagé le monde en trois. Et la part de Shem, du fils donc de Noach, Shem, dans sa part du monde, il y avait Eretz Israël. Et il y a eu une guerre, il y a eu des guerres, et une guerre entre Knaan, qui est un descendant de Ham, fils de Ham, qui a fait la guerre contre les descendants de Shem, et qui les a battus, et qui a pris possession de la terre en question. Donc Eretz Kenaan, c'était initialement une partie qui appartenait à Shem, et qui a été conquise par la guerre, par les gens de Kenaan. Clair? Alors maintenant, le paradoxe, c'est que ces gens de Kenaan, ils viennent nous reprocher à nous de les avoir battus et d'avoir pris leur terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? La loi de la guerre, c'était que quand tu avais vaincu, ben, tu prenais la terre du vaincu. Donc, à la limite, même si, effectivement, on a tué c'est des Cananéens qui étaient là-bas. C'était un terme générique, clan, plus grand que les différents sept peuples, etc. On les a tués, d'accord? C'est vrai, on les a tués. Et on a pris la terre, c'est vrai. Mais on n'est pas plus des voleurs parce qu'on a pris cette terre-là qu'eux n'étaient des voleurs parce qu'ils ont pris la terre de Shem. C'était ça la règle de la guerre. Et si on dit que nous, on est voleurs, mais eux, ils étaient les voleurs avant nous. Donc le voleur d'un voleur, si voler d'un voleur, c'est pas la même chose que de voler de quelqu'un auquel ça appartient, que je sache. Donc je veux dire, à part toute la rhétorique, etc., mais on comprend même pas comment ça commence. C'est toujours comme ça, cette espèce d'argument complètement débile.
Oui, ils se situent même pas là-dedans, parce que si vous leur parlez comme ça, ils vont dire non, mais votre histoire, c'est une histoire biblique, nous, c'est une histoire qui est pour eux, entre guillemets, pour eux, réelle. C'est-à-dire, factuellement, ils peuvent le dire.
Et nous aussi, on peut dire qu'on avait factuellement, on était là-bas. Si c'est comme ça.
Oui, mais.
Ils voient très bien qu'ils sont de mauvaise foi dans la mesure où ils disent qu'il n'y avait pas de David, il n'y avait pas de Shlomo, etc. Même si, comment il s'appelle, Shlomo Sam, ils pensent comme eux. D'accord? Mais on trouve aujourd'hui encore des vestiges, des preuves quand même, réelles, oui. Tangibles, que les archéologues eux-mêmes valident. Donc, dire que, on arrivait à dire qu'il n'y avait rien et c'était jamais rien, bon, c'est déjà faux dès le départ, quoi. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, les Juifs qui étaient là-bas, ils étaient complètement soumis. Il y avait à un moment donné, en Israël, il y avait un président de l'État d'Israël qui s'appelait Ben Tzvi. Aujourd'hui, il y a un institut Ben Tzvi d'histoire, etc. Et lui, il était un peu historien. Et un jour, il a dit que les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est les Juifs qui n'ont pas été déportés par les Romains. Les Romains, ils ont déporté les Juifs. Évidemment, ils n'ont pas déporté tout le monde. Il en est resté. C'est pas possible de déporter tout le monde. Alors, il dit que ceux qui sont restés sur place et qui sont vraiment là depuis toujours, c'est les Juifs qui n'ont pas été déportés, c'est tout. Quand ensuite, était obligé d'accepter la loi islamique, etc. Bon, il y a plein de juifs qui ont été obligés. Certains disent que même Maïmonide aussi, il a été obligé de. Quand on parle des Almohades au Maroc, je crois que c'était au Maroc, je ne crois pas que c'était à Cordoue, mais quand il était à Fès, c'était la vie ou la mort. Et le Rambam, il a écrit une lettre aux gens du Yémen, qu'on peut très bien, il n'y a pas de problème, ce n'est pas de l'idolâtrie l'islam. C'est faux, mais bon, il n'y a rien à dire qu'il est grand. On est d'accord que